Elle était en chaussettes. Et elle resta plantée là à fixer Parrish, comme si c'était un parent qu'elle n'avait pas vu depuis une éternité. Police, déclara-t-elle d'une voix neutre. Parrish acquiesça. Il avait les mains autour de son porte-carte, prêt à montrer sa plaque. Mais il était si évident qu'il était flic que ça ne servait à rien. Inspecteur Frank Parrish, dit-il doucement. Je viens de Brooklyn, et je me demandais si vous pourriez m'accorder une minute ou deux pour répondre à quelques questions. Karen? Oui, Karen. Vous n'avez pas retrouvé le type qui l'a tué ici? Si vous l'aviez retrouvé, vous ne poseriez plus de questions. Non, je suis désolé. Je n'ai pas retrouvé le type qui l'a tué, Madame Pulaski, mais j'ai perdu une autre fille. Vous avez perdu une autre fille? Comment ça, vous? Parrish se sentit soudain idiot. Je ne voulais pas dire. Je ne sais pas. Je suis désolé. C'est juste qu'il m'arrive de prendre ces affaires à cœur. Eh bien, inspecteur Parrish, vous m'envoyez ravi. Et il est rassurant de savoir que l'enquête se poursuit un an après. Entrez. Mon mari est à l'étage. Je vais aller le chercher. Parrish la suivit jusqu'au salon. Se tint sur le tapis coloré, regarda le mur et vit Karen, qui lui retournait son regard depuis une photo qui n'avait pas pu être prise bien longtemps avant sa mort. Il se sentait mal à l'aise. Les Pulaski croiraient désormais qu'il enquêtait sur le meurtre de leur fille, ce qui n'était pas le cas. Il s'imaginait, en toute probabilité, que personne ne s'était sérieusement penché sur la mort de Karen depuis 7 ou 8 bons mois. Elle était l'un des fantômes du commissariat du 91e district de Williamsburg. Le père apparut. L'analyste comptable. 45 ans à vue de nez, cheveux grisonnants, lunettes. Le genre de type qui arborait un vieux maillot de football sans jamais avoir joué au football de sa vie. Il portait une montre avec de multiples cadrans et un boîtier en caoutchouc noir. Pourquoi les employés du bureau portaient-ils toujours des montres de commando? Inspecteur, dit-il calmement, je suis David Pulaski. Vous avez du neuf au sujet de Karen? Non, monsieur, je crains que non. Je travaille en fait sur une autre affaire qui est peut-être liée, même si rien n'est certain pour le moment. David Pulaski regarda sa femme. La déception se lisait sur leur visage. Ils voulaient savoir que l'assassin de leur fille avait été retrouvé, qu'il avait été abattu par la police pendant qu'il tentait de s'enfuir, qu'il souffrait en ce moment même le martyre, gisant dans une mare de sang dans quelque allée infecte. Les secouristes prendraient leur temps. Il n'avait aucune raison de se presser. Après tout, pourquoi s'occuperaient-ils de ce type? Mais ils interviendraient à la dernière minute. Ils juguleraient l'hémorragie, le transporteraient à l'hôpital, le remettraient suffisamment sur pied pour qu'il comparaisse au tribunal, pour qu'il soit condamné à quelques peines de prison interminables avant son exécution terrifiante. Voilà ce qu'ils voulaient entendre. Mais ce n'était pas ce que Parrish était venu leur annoncer. Ici, c'était la vraie vie, pas un film. Une autre fille? Demanda Pulaski. Parrish acquiesça. Asseyez-vous, inspecteur. Elisabeth Pulaski lui proposa du café. Il déclina. Il ne voulait pas rester plus longtemps qu'il n'était absolument nécessaire. Je voulais juste savoir si vous vous étiez souvenu d'autres détails, déclara Parrish. Pulaski secoua la tête. Je ne sais pas, inspecteur, vraiment pas. Karen était ici, puis elle a disparu. Elle était adulte, même à 16 ans. Elle savait ce qu'elle voulait, elle savait où elle allait. Elle était responsable, polie. Il marqua une pause, lança un coup d'œil en direction de sa femme. Elle allait souvent chez ses amis. Elle avait beaucoup d'amis, et c'était Noël. Elle est allée les voir le 26. Elle vivait dans Willoughby. Elle est arrivée vers 10 h du matin. Elle y est restée jusqu'à environ 16 h. Puis elle a marché jusqu'à l'arrêt du bus. Elle a pris le bus. Et c'est la dernière fois qu'elle a été vue. Personne ne sait si elle est descendue avant son arrêt, ou si elle l'a atteint et a été enlevée avant d'arriver à la maison. Ou si elle avait elle-même l'intention de rentrer à la maison, suggéra Elisabeth Pulaski. Le mari devint silencieux. Parrish comprit qu'il n'en savait pas plus que ce qu'ils avaient déjà dit à la police. Si je vous dis ça, c'est à cause de ses vêtements, ajouta Elisabeth. Ses vêtements? Demanda Parrish. Quand ils l'ont retrouvée, quand ils l'ont retrouvée, elle portait des vêtements qu'elle n'aurait jamais normalement portés. Parrish sentit sa respiration s'éclaircir soudain, comme si on lui avait fait respirer de l'ammoniaque. Des vêtements qu'elle n'aurait jamais portés. Une jupe courte, précisa Elisabeth, très courte, et des chaussures à talons hauts. Certes, Karen avait des chaussures à talons hauts, mais seulement pour les bals, les occasions spéciales. Autrement, elle était toujours en jean, tennis et sweatshirt, ce genre de choses. Elle ne portait presque jamais de jupe. Et quand elle en portait, elles étaient longues, au moins jusqu'aux genoux. Une jupe courte, un maillot à dos nu, et des chaussures à talons hauts. Elle secoua la tête. Ça ne ressemblait pas à Karen. Pas du tout. Et vous l'avez dit aux enquêteurs chargés de l'enquête? Oui, intervint David Pulaski. Nous leur avons tout dit. Ça devrait figurer dans le dossier. Je suis sûr que c'est le cas, répondit Parrish, même s'il ne se souvenait d'aucune note concernant la tenue de Karen dans le dossier. Quoi qu'il en soit, cette affaire dépend de Williamsburg, alors que j'enquête à Brooklyn. Et l'affaire sur laquelle vous enquêtez pourrait être, c'est la procédure standard, coupa Parrish. L'enquête sur la mort de votre fille restera ouverte jusqu'à ce que le coupable soit retrouvé. Les inspecteurs en charge ne clôront jamais le dossier. Et même s'ils ne donnent pas de nouvelles pendant des semaines, voire des mois, ça ne signifie pas qu'ils ne lui accordent pas l'attention qu'elle mérite. Nous comprenons, dit Pulaski. Et Parrish entendit la résignation dans sa voix. L'homme savait que Parrish lui disait ce qu'il voulait entendre, et que ce n'était peut-être pas exactement la vérité. Elisabeth Pulaski se leva. Elle regarda Parrish, puis son mari. Le plus triste, c'est qu'après tous les efforts que nous avons consentis, elle secoua lentement la tête. Je vous demande pardon, fit Parrish. Karen n'était pas notre fille, expliqua David Pulaski. Pas d'un point de vue biologique. Nous l'avons adoptée quand elle avait 7 ans. Elle n'allait pas bien du tout. Il lui a bien fallu 3 ou 4 ans pour s'adapter. Vous l'avez adoptée? Demanda Parrish tentant de dissimuler sa surprise. Pulaski sourit d'un air gêné. Ce n'est pas si rare, inspecteur. Non, bien sûr que non. Je suis désolé, non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que ça cadre avec une chose sur laquelle j'enquête. Une chose sur laquelle vous enquêtez? Une autre affaire. Je suis désolé. Je ne veux pas paraître insensible. Ça m'a simplement rappelé une affaire sans rapport dont je m'occupe. Parrish sentait qu'il s'en mêlait les pinceaux. Il se leva, peut-être un peu trop brusquement, et les Pulaski comprirent qu'il était prêt à partir. Il remercia le couple de lui avoir accordé du temps, lui souhaita bonne chance, puis traversa la rue et se mit à marcher sur le trottoir opposé sans se retourner. Il sentait leurs yeux dans son dos, et il voulait qu'ils oublient autant que possible sa visite, qu'ils l'oublient, lui. Il n'avait rien dit pour une simple et bonne raison. S'il avait insisté sur cette histoire d'adoption, alors il se serait à coup sûr rendu au commissariat du 91e district pour poser des questions à l'inspecteur Richard Franco et à ses collègues. Saviez-vous qu'une fille a été assassinée à Brooklyn? Un inspecteur est venu nous voir et il nous a dit que la fille de Brooklyn avait elle aussi perdu ses parents comme Karen. Vous le saviez? Est-ce que vous vous êtes penché sur cette question quand vous avez enquêté sur la mort de notre fille? Il ne voulait pas se faire prendre à empiéter sur les plates-bandes d'un autre, surtout pas celles d'un inspecteur d'un autre commissariat. Parrish prit le métro à Myrtle et reprit la direction de Brooklyn. Si ses souvenirs étaient exacts, le service des archives des services pour l'enfance du comté de New York se trouvait à Manhattan. Il n'était pas sûr qu'il soit ouvert le samedi, mais s'il l'était, il voulait y arriver avant la fermeture. Chapitre 21. Les bureaux du service des archives étaient ouverts, et ils le seraient jusqu'à 16h30. Parrish n'eut aucune peine à avoir accès à ce qu'il voulait. Il montra sa plaque, expliqua ce dont il avait besoin, et on lui apporta les dossiers de Karen Pulaski et Rebecca Lange. Karen était née Magdalene.